Vous écoutez RTL. Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste, député de Paris. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury RTL Le Figaro LCI. Bonjour Jean-Christophe Cambadélis.
Bonjour.
Après cette semaine de crise dans laquelle le PS est resté assez discret, on est heureux de vous entendre, d'entendre votre position. Vous êtes le patron du parti majoritaire. Que proposez-vous au couple Hollande-Valls pour sortir de la crise? Rester dans ce face-à-face avec la CGT ou, comme le propose une partie de vos ouailles, j'allais dire une partie du Parti Socialiste, modifier le texte, voire le retirer? Vous qui êtes dans un dialogue permanent avec François Hollande, a-t-il raison de vouloir sauver ce texte à tout prix? On va en parler évidemment longuement avec vous. Puis dans ce contexte, il y a une semaine, c'était évidemment très frappant, il y a eu des tirs contre un local du Parti Socialiste dans l'Isère. Comment en est-on arrivé là? On a une heure pour comprendre et pour vous interroger, Alexis Brézet, directeur des rédactions du Figaro, et bonjour. Julie Arnaud de TF1 et LCI, bonjour. Et Benoît Galeret qui va nous rejoindre tout à l'heure et qui posera les questions qui auront été inspiré par vos déclarations depuis le début de l'émission. Bonjour Benoît.
Bonjour. En effet, je vais surveiller toutes vos réactions sur les réseaux avec le hashtag Le Grand Jury tout attaché. Et puis je vous rejoins en fin d'émission pour vous lire les plus pertinentes. N'hésitez pas.
À tout à l'heure, hashtag Le Grand Jury. À tout à l'heure, Benoît. Jean-Christophe Cambadélis, toute cette semaine, presque jour après jour, Manuel Valls a martelé droit dans ses bottes. J'irai jusqu'au bout. Est-ce que c'est une bonne méthode de gouvernement?
Je pense que dans le moment présent, il faut de la fermeté, mais pas de fermeture. De la fermeté vis-à-vis des blocages, de la fermeté vis-à-vis des Français pris en otage, de la fermeté vis-à-vis des matraquages contre les policiers, de la fermeté vis-à-vis des attaques, des permanences du Parti Socialiste ou d'autres formations politiques. De la fermeté aussi sur la loi travail numéro 2 et le fait que celle-ci ne puisse pas être retirée.
Pas de retrait, donc.
Mais il faut aussi ne pas être dans la fermeture.
Il faut négocier. Quoi la fermeture?
Il faut négocier à la SNCF, et je crois que c'est en bonne voie.
Quel
il faut
pas,
négocier
pas
sur la loi RATP. Sur la RATP, c'était aussi en bonne voie. Il faut aussi obtenir un accord, et c'est en bonne voie, sur les intermittents du spectacle.
Ça, ce sont des revendications catégorielles qui, effectivement, n'ont pas de rapport direct avec la loi El Khomri.
Et après, quand le moment sera venu, au moment du débat parlementaire, puisque nous allons d'abord avoir le Sénat, et nous verrons ce qui sortira du Sénat, au moment de ce débat au Parlement, il faudra éclairer sans dénaturer. C'est-à-dire qu'il faudra respecter l'accord que nous avons passé, conclu, avec les syndicats réformistes.
C'est-à-dire CFDT, garder l'article CFDT. 2 tel quel.
C'est-à-dire respecter l'esprit de cette loi. Je crois, moi, qu'elle est bonne et qu'il faut maintenant, qu'elle est maintenant bonne, puisque vous vous souvenez que j'avais des positions contre la première loi travail. Maintenant, elle est bonne, elle est équilibrée.
Donc on touche
il
pas
faut
à l'article
sûrement,
2.
Il faut sûrement éclairer et rassurer, mais il ne faut absolument pas dénaturer.
Mais
et
alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Alexis
que
Brézet.
Beaucoup de vos amis, Bruno Le Roux, Michel Sapin et bien d'autres, et évidemment beaucoup de frondeurs, disent qu'il faut revoir l'article 2. Là, on ne comprend pas bien ce que vous dites, il faut le revoir.
Non, vous avez parfaitement compris
éclairer,
ce que je dis.
Éclairer, ça veut dire
mais,
quoi
mais
vous, me mettez, vous avez compris, mais vous me mettez en opposition avec les frondeurs, ce qui est normal.
Non, mais non, bon, Michel alors, Sapin, donc, c'est pas un frondeur. Bon, Bruno Le Roux, président du groupe socialiste.
Non, c'est pas ce qu'a dit Bruno Le Roux.
Il a dit
qu'il
faut réécrire l'article 2.
Non, ce qu'a dit Bruno Le Roux, et il a raison, c'est que nous avions, dans le débat parlementaire, fait des propositions au groupe parlementaire, fait des propositions d'évolution du texte. Toutes les propositions ont été repoussées. Pourquoi? Et toute la clé est là, de la situation. Parce que une centrale syndicale, la CGT, quelques parlementaires, 50 de gauche sur 350, sont pour le retrait du texte. Et on ne peut pas être pour le retrait du texte et son amélioration. Ils sont sur le retrait du texte. Tant qu'ils sont sur le retrait du texte, pas possible d'avancer.
Mais donc, alors, vous dites on peut faire des améliorations?
Non. Je dis ce que disait Bruno Leroux.
Oui, mais
on
vous...
était là.
Donc, vous dites
moi,
qu'il
je
a raison.
Dis éclairer, ça veut dire expliquer, rassurer, parce que vous savez qu'il y a un débat qui est assez prégnant sur la hiérarchie des normes, les attentes.
Voilà. Alors, on va être précis, parce que c'est vrai que nos auditeurs ne connaissent pas toutes les propositions qui avaient été faites, d'ailleurs, pour, devant le groupe et qui ont finalement été retirées. Ce que vous voulez dire, c'est que tout en gardant la philosophie de l'article 2, c'est-à-dire le fait que l'accord d'entreprise puisse primer sur l'accord de branche, c'est le sens de l'article 2, il y ait une possibilité pour que la branche ait quand même un droit de regard sur cet accord d'entreprise. On va être précis, parce
Non, vous ne ferez pas mener la négociation ici, celle qui aura lieu au mois de juillet. Je connais trop le mouvement social pour pouvoir faire des annonces qui seront immédiatement dénoncées.
Qu'est-ce que ça veut dire
moi, éclairer donc, le texte dit seulement pour l'aménagement du temps de travail, seulement. Mmh. Il ne parle pas ni des salaires, alors que je rappelle que la droite se propose de les encadrer.
Si.
Il ne parle pas du SMIG, alors que la droite se propose
le temps de, travail, une
de les réduire.
Sur le salaire.
Il ne parle pas ni de l'embauche, ni du code du travail, dont on sait ce que la droite en dit.
Il parle bien de la majoration des heures supplémentaires.
Il parle simplement de l'aménagement du temps de travail et avec ses conséquences. Donc seulement sur cette question, qui avait déjà été inaugurée dans d'autres temps, mais qui là a un cadre juridique, il y a la possibilité de déroger à l'accord de branche. Je pense que l'accord de branche est protecteur, mais qu'il ne correspond pas totalement à la situation auxquelles sont confrontées les entreprises. Donc il faut être à la fois en défense avec l'accord de branche et en attaque quand c'est nécessaire.
Ça veut dire quoi? Il faut traduire ça.
Vous avez une pensée très subtile.
Traduisez dans les faits.
Je traduis ce que j'ai envie de traduire, c'est-à-dire en défense, c'est-à-dire que quand il y a tous les points que je vous ai cités, à savoir les salaires, à savoir l'embauche, à savoir... C'est l'accord de branche qui est là, le code du travail, etc.
Et
pour le temps de travail, c'est dans l'entreprise que l'on peut, pas que l'on doit, que l'on peut, en fonction d'événements qui viennent de surgir, passer
avec
les accords.
Avec la majoration branche. Des heures supplémentaires ou pas?
Pour l'instant, le texte, c'est celui-là. Ouais. Et moi, je respecte le texte.
Non, mais il vous va, ce texte
me va, puisque je l'ai défendu. J'ai été contre le texte, le premier texte. D'ailleurs, j'étais le premier à le dire. Je l'ai dit.
À l'époque,
dans
il y avait
cas,
le barème,
dans les
le
cas,
le
je ne voterai pas parce qu'il y avait les indemnités prud'homales, parce que le licenciement, on y a mis le juge, ça me va mieux. Parce que sur la question de l'article 2, c'était le patron qui, en dernière analyse, décidait. Alors que là, c'est la majorité des salariés, et c'était une revendication d'ailleurs de la CGT.
Ouais.
Donc j'ai dit que dans l'État, je ne me voyais pas voter ce texte. Et ce texte, à ce moment-là, était soutenu par le MEDEF. Aujourd'hui, je dis, en fonction des évolutions, des discussions avec les organisations syndicales réformistes, il y a eu des avancées, je me sens en état de voter ce texte, je le défends, le MEDEF est contre.
Le timing que vous nous donnez est un timing qui nous renvoie à juillet, la situation aujourd'hui
en
France.
Bien sûr, je n'ai pas la possibilité de convoquer le Parlement plus tôt.
La situation sociale s'est bloquée, il y a des tensions,
aujourd'hui, on est dans le déblocage.
Ah bon, vous êtes sûr de ça?
Mais regardez aujourd'hui sur la question l'acheminement de l'essence. Aujourd'hui, il n'y a plus que 800 stations qui sont fermées.
Oui, mais si les raffineries sont bloquées, il y a un moment où elles ne le sont plus.
Mais absolument pas. Vous savez...
Elles sont encore bloquées, les raffineries.
Mais aujourd'hui, on est dans une situation où les choses se débloquent. Les problèmes sont réglés ou sont en passe d'être réglés.
Les problèmes sont réglés, dites-nous.
Est-ce que c'est parce que vous avez fait le plein récemment, Jean-Christophe Combadélis?
Oui, j'ai fait le plein. Vous venez avec moi, on va y aller là juste à côté. Il y a une station, vous verrez, il y a de la
descente. Je suis passé ce matin, j'en ai pas trouvé.
Bon, franchement, vous avez fait un détour.
Est-ce que c'est pas Manuel Valls a déjà dit ça il y a quelques jours, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est pas un peu du déni? Il y a les problèmes de l'essence. La semaine prochaine, il y a la grève illimitée à la SNCF, la grève illimitée à la RATP.
Vous ne m'avez pas entendu. Je vous ai dit qu'il fallait...
J'ai pas fini, il y a aussi l'aérien.
C'est vous avez dit qu'on était dans le déblocage. C'est ça qu'on
voilà, de donc
il n'y a que des mouvements de grève la semaine prochaine.
Mais bien sûr, mais ça, c'est la vie sociale française.
Oui, c'est une vie que ça bloque.
Compliqué, hein, quand même.
On se retrouve dans une situation parfois où les journaux ne peuvent pas être publiés. Vous le savez parfaitement.
Vous en pensez quoi de ça, tiens?
Je pense que c'est du chantage. Et je le regrette.
Est-ce que vous le regrettez?
C'est un dérapage de la CGT.
Je le regrette.
Vous le condamnez pas?
Je le regrette.
Vous le condamnez pas?
Je le regrette.
Vous condamnez pas le fait que la CGT interdise aux journaux de Paris?
Je le regrette.
Mais vous le condamnez pas?
Mais vous je parle français
non,
ou pas?
C'est intéressant. Non. C'est intéressant.
Voilà. Est-ce que vous reprenez d'ailleurs à votre compte une autre expression qui est l'expression de prise en otage des consommateurs? C'est Manuel Valls lui-même qui reprend ces termes.
J'ai dit dans ma petite déclaration liminaire qu'il fallait être ferme par rapport aux prises en otage, oui.
Pour revenir à l'évolution, non pas sur le terrain, mais de ce qui va se passer sur la loi travail, vous disiez « je ne suis pas pour le retrait ». Je suis contre le retrait. Pourquoi ? Pourquoi s'attacher un texte, finalement, à ce point-là, dans la mesure où il y a deux articles, surtout un qui pose un problème, et qu'il crispe à ce point les Français, qui en ont un tout petit peu assez de ce climat très tendu en France ?
Non, mais si il suffisait de bloquer les centres de dépôt d'essence ou les centrales nucléaires ou les ports pour obtenir le retrait d'un texte, alors demain, les tenants du combat contre le mariage pour tous se mettraient devant et on devrait retirer le texte. Mais on va où, là? Quelle démocratie? Comment on va fonctionner? Ce n'est pas parce que M. Martinez, que je respecte, se frise les moustaches parce qu'il n'est pas d'accord avec le texte, qu'on va courir comme des lapins.
Non, mais c'est peut-être parce qu'une loi qui est mal comprise, au final, est peut-être une mauvaise loi. Est-ce qu'il vaut mieux pas, dans ces cas-là, faire table rase?
Parce que les Français ont en tête la loi travail numéro 1.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
C'est ce que je discute avec les uns et avec les autres.
C'est pour ça que vous dites qu'il faut éclairer. Les Français n'ont rien compris, alors. Les Français n'ont pas compris de quoi on parle.
J'ai qu'ils ont en tête l'idée que ce texte serait licencier plus pour embaucher plus. Ce n'est pas ça, ce texte.
C'est comme ça que ça a été présenté au départ, d'ailleurs.
Dans votre question, il y a pourquoi il ne faudrait pas le retirer. Mais parce qu'il y a des avancées majeures auxquelles je tiens. Et d'ailleurs, je suis mandaté par un congrès là-dessus. C'est la sécurisation des parcours professionnels.
Mais ça ne vous trouble pas que ça n'apparaisse jamais dans le discours?
Mais parce que ce qui n'apparaît dans le discours, c'est que les critiques. Ce n'est pas les défenses.
Je n'entends pas.
Martinez, par exemple, qui était tenant de la sécurité sociale professionnelle, je ne l'ai jamais entendu dire il y a ça, c'est déjà pas mal. Mais le reste, je verrai ou je ne suis pas d'accord. Parce qu'il est pour le retrait.
Mais à quoi
donc,
il joue Philippe
le
Martinez
retrait,
dans cette
des positions positives.
À quoi il joue dans cette affaire, Philippe Martinez?
J'en sais rien, invitez-le, posez-lui la question.
Je ne suis
pas tout à fait le porte-parole de la CGT.
Non, je vous demande parce qu'il sera d'ailleurs demain soir, je le signale, à 19h face à Laurent Berger sur RTL. Ce sera un beau duel parce que c'est extrêmement rare, important
parce que c'est aussi deux conceptions des relations sociales. Là, on est pour que les Français nous comprennent, on est dans une évolution. Il faut garder les éléments protecteurs, mais il faut s'ouvrir, il faut une certaine souplesse par rapport aux situations économiques et la compétition que nous avons aujourd'hui. Et les deux syndicats sont aujourd'hui sur deux positions différentes. Donc ce n'est pas simplement une mauvaise volonté de la part du gouvernement.
Oui, non, mais si je vous pose la question, c'est parce que Manuel Valls a installé ce duel entre lui et Philippe Martinez. Il l'a dit plusieurs fois. C'est pas la CGT, c'est pas Martinez qui fait la loi. À votre avis,
c'est ce que j'ai dit lundi.
Oui,
ben premier.
À quoi il joue?
Mais bien sûr, Martinez. Parce que je ne crois pas. Moi, je respecte les organisations syndicales. J'ai été syndicaliste. Je sais ce que c'est que de combattre un projet de loi avec lequel on n'est pas d'accord. Mais j'ai toujours pensé qu'une organisation syndicale, elle ne devait pas nier, elle devait négocier. Et qu'il faut négocier. J'ai encore entendu hier M. Le Pen, le prédécesseur malheureux de M. Martinez, qui disait, secrétaire de la Confédération, qu'il faut négocier. J'ai en l'oreille un certain nombre de responsables de la CGT qui disaient il faut le faire.
Mais là,
ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce que le congrès de la CGT, le congrès de la CGT a proposé la grève générale et le retrait du texte, et je suppose que M. Martinez est prisonnier de ce vote. Voilà.
Il est prisonnier. Ça démarche quoi? C'est une démarche politique? Il veut faire tomber le gouvernement?
Je pense qu'il y a un peu de cela, oui. Un peu de cela.
Et que son objectif, c'est quoi? C'est la démission de Manuel Valls?
S'il était pour une amélioration, il ne dirait pas retrait. Il dirait, sur cet article-là, ce fameux article 2, ou sur l'article 30, ou sur un autre article, il disait, la CGT a des propositions. C'est pas ça. Parce qu'on parle beaucoup de l'intransigeance de Manuel Valls, mais qui est dans le retrait? C'est la CGT. Qui est dans le refus de toute négociation.
Manuel Valls n'est pas trop intransigeant à vos yeux, parce qu'il y a un certain nombre de députés socialistes qui disent ça, il en fait trop, il est trop dur.
Mais écoutez, dans la période actuelle, si on n'était pas ferme, vous auriez un tollé dans l'ensemble du pays. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a tant commencé M. Nicolas Sarkozy.
Il y en a un tollé, en disant, Jean-Christophe
Cambadélis. Non, mais en disant, sur cette question-là, en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce gouvernement qui n'est pas capable de se faire respecter? Nous respectons les lois vous et dites, nous les faisons respecter.
Vous dites que si le mouvement est populaire, c'est parce qu'il a été mal expliqué ou parce que les gens se souviennent de la loi Travail 1, mais il y a aussi une impopularité très forte du gouvernement. Et on sent que quel que soit le message que veut faire passer le gouvernement aujourd'hui, ça ne passe pas. Est-ce qu'il fallait pourtant présenter ce texte et s'obstiner là-dessus depuis plusieurs
c'est
mois
quoi,
Non mais attendez. Qui est satisfait de la situation actuelle?
Personne.
Voilà. Qui est satisfait sur le terrain de l'emploi, de la situation actuelle? Qui est satisfait? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de licenciement en France, avec les normes telles qu'elles sont aujourd'hui. Mais à un moment donné, il faut comprendre aussi la situation dans laquelle sont les salariés, par les syndicats. Laissons de côté les syndicats. Mais les salariés, aujourd'hui, il y a du licenciement. On ne peut pas dire le contraire. Avec les normes qui sont les normes actuelles, on ne peut pas dire le contraire.
Mais qu'est-ce qui a raté, qu'est-ce qui a foiré pour qu'on en arrive là? C'est-à-dire que la gauche, normalement, c'était le dialogue social. Il y avait Sarkozy qui divisait les Français, la gauche qui devait les réconcilier. Et on en est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Ce qui n'a pas marché, c'est que le premier texte, je crois, a été présenté d'une manière abrupte et à partir d'un angle qui n'était pas l'angle opportun. L'angle, c'était, on va donner plus de flexibilité aux entreprises.
C'était le principe de cette loi.
Mais non, c'est le propre de ce gouvernement, Manuel Valls, Lionel Jospin et hier Jean-Marc Ayrault, c'est le juste équilibre. Le juste équilibre entre les entreprises et les salariés et dans tous les domaines.
Aujourd'hui, personne n'est content.
Pardon ?
Personne n'est content aujourd'hui. Le MEDEF est furieux, la CGT, on n'en parle
parce
même
que
pas.
Quand le texte est arrivé, les responsables du MEDEF ont dit « c'est Noël ».
Et donc,
ça a donné quelques manières de voir le texte. Mais après, vous avez 15 jours de discussion avec les organisations syndicales, parce que je vous rappelle qu'au point de départ, la CFDT, l'UNSA, la CFTC et la CGC et les syndicats étudiants FAGE étaient en désaccord. Puis il y a eu discussion. Le gouvernement n'est pas passé en force, il n'a pas mis à l'ordre du jour du Conseil des ministres, il s'est donné 15 jours. Quel gouvernement a fait ça? 15 jours de discussion.
Donc
après,
c'est juste une question de présentation. Donc, en fait, c'est ça le problème.
Oui, et puis après, de négociation. La négociation a abouti à un texte plus équilibré, qui satisfait la moitié des organisations syndicales, mais qui n'a pas été expliqué à l'ensemble du pays.
Qui sait,
par exemple, que sur cette fameuse hiérarchie des normes et de l'accord de l'entreprise, on est passé au vote majoritaire? C'est une avancée considérable. Mmh. C'est une revendication de la CGT.
Mmh. Mais elle fait semblant de ne pas le comprendre.
Elle est pour le retrait du texte.
J'aimerais bien qu'on avance.
Il y a aussi Force ouvrière et bien d'autres syndicats.
J'aimerais bien qu'on avance un petit peu.
Sur l'article 2, ils sont en fond contre.
Bien sûr. Mais pourquoi ils sont contre? Parce que pour Force ouvrière, que je connais bien puisque ça a été mon syndicat, c'est l'ADN.
C'est-à-dire la hiérarchie des normes.
Voilà, la hiérarchie des normes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont constitués en 1947, dans la bataille sur les conventions collectives par rapport à la CGT. Bon. Mais souvenez-vous, lorsqu'il y a les lois Auroux, André Bergeron, à l'époque responsable de Force ouvrière, rompt avec François Mitterrand parce que l'on a introduit la dimension de l'accord d'entreprise. Donc pour eux, c'est quelque chose de fondamental. Mais Jean-Claude Mailly, que je connais bien aussi, et quelqu'un qui s'intéresse au texte en tant que tel.
Vous pensez qu'il peut changer de camp?
Attendez.
On n'est pas dans des problèmes de camp, Non, il n'y a pas de problème de camp, il y a des problèmes syndicaux et des problèmes sociaux. Donc, il s'intéresse au contenu du texte, il n'est pas dans le retrait absolu, puisque
non,
lui, il consent.
Veut l'article 2. Il veut le
Et vous voyez bien, j'essaye de vous expliquer en quoi il y a une différence dans le front du refus.
Alors ça, c'est dit. Effectivement, vous venez de le dire. On répète que Jean-Claude Mailly veut le retrait de l'article 2. On n'a pas bien compris comment vous alliez le satisfaire sur
Mais
ce point, vous qui
le
connaissez si bien.
C'est de satisfaire les syndicats majoritaires aujourd'hui.
Mais ils sont satisfaits.
Pourquoi ? Et donc, je continue à les satisfaire.
La
je vais pas écouter. Écoutez, je vais pas. Le Parti socialiste ne va pas dire aujourd'hui il faut défaire avec les syndicats réformistes ce que nous avons fait ensemble.
Donc,
pourquoi ? Parce que il y a une centrale syndicale, la CGT pour tout dire, qui a une autre logique que la nôtre. Et ça, c'est la démocratie.
Alors moi j'ai une question, Jean-Christophe Cambadélis. Vous nous dites éclairer sans dénaturer au moment du débat parlementaire et retour du texte à l'Assemblée début juillet. En attendant, la seule réponse de l'exécutif et votre seule réponse, c'est quoi ? C'est l'ordre public.
Mais on va... c'est normal, non ?
Ah ben, je vous demande, pour un gouvernement de gauche qui devait mettre en avant la question sociale,
mais
pour un François
fait.
Hollande qui a fait de la négociation la pierre
fait.
Angulaire
attendez,
de son
attendez.
Quinquennat, l'ordre public, maintien de l'ordre public,
négocié,
uniquement, c'est pas...
On a négocié, et on a négocié, juste équilibre.
On a négocié tardivement, mais...
Peut-être, mais on a négocié 15 jours.
Syndicats.
15 jours.
Ouais.
Non, avec tous les syndicats,
attendez.
On a négocié. Ok, bien.
Non.
À partir de là, la négociation a si parce que la CFDT, pour faire court, était contre, elle est sortie en étant pour.
Oui, parce
donc
que
on
vous
a négocié.
Êtes passé de la version 1
mais non,
à la version
mais parce
2.
Que ouais. ceux qui sont contre sont toujours supérieurs par rapport à ceux qui sont pour dans le mouvement social. Mmh. C'est une faute, ça. Non, il y a à respecter. Moi, je respecte la CGT, je respecte Force ouvrière, je respecte l'UNEF, évidemment, mais je respecte aussi les autres. Pourquoi faudrait-il qu'il n'y ait qu'une seule manière de voir ? Parce que quand on est dans le mouvement, c'est supérieur à la négociation.
Non,
mais
ça
voilà,
pardon,
mais quand
pardon,
on aborde
en
ce genre de choses, vous voulez, on passe à autre chose.
Non, en attendant d'éclairer les Français, donc on ne bouge pas, voilà. On attend
aujourd'hui,
juillet.
On n'est pas,
et on
n'est pas aujourd'hui. Mais ça va prendre
tout.
Du temps, puisque le débat parlementaire.
Mais pas peur pour l'euro, par exemple ? L'euro 2016, ça ne va pas poser des problèmes ?
La CGT va perturber l'euro ?
Il y a des risques, il y a des menaces.
Ah ouais ?
Hein
vous l'avez
vous
entendu
quoi,
où,
vous
ça
dites, vous lui dites quoi, chiche ?
Chiche, c'est ça ?
Non, je
n'ose
pas ça. Je n'ai pas, je n'ai jamais entendu.
Vous entendez, ouais.
Je n'ai jamais entendu Martinez, ni le bureau confédéral de la CGT.
Oui, mais s'il y a des grèves des métros, s'il y a des grèves des métros,
pas terminer une phrase.
Allez,
grève métro de train pendant l'euro, il sera perturbé de facto.
Mais il n'y aura pas de grève de train et de métro.
Mais
parce que je connais les responsables de la CGT, je ne peux pas croire une seule. Rien dit du tout. Je ne peux pas croire une seule seconde qu'ils prennent en otage, là pour le coup, la France. Parce que c'est l'image de la France qui est en cause.
Mais
d'ailleurs, j'ai remarqué que la prochaine manifestation est le 14 juin,
ouais.
Pas la semaine prochaine.
Ouais. Bah c'est 4
donc
jours.
Donc on laisse du temps.
Est-ce que
vous avez dit aussi ? Parce que l'euro, c'est le 10 juin que ça commence.
Oui.
Donc ça fait 4 jours après.
Mais est-ce que
vous
avez dit aussi ? Vous voyez, si vous êtes syndicaliste dans un mouvement comme ça, à fond, le premier jour de l'euro, hop, on y va les copains. C'est pas le cas, là, bon, voilà.
Mais parce que vous ne croyez pas une seconde à cette menace.
Vous appeliez à ce qu'on lâche un peu du lest, le gouvernement lâche du lest, à la SNCF, à la RATP.
Je dis pas lâche
des
du
intérêts
lest. Le problème, c'est
qu'il
y ait une négociation et que celle-ci aboutisse. Il ne s'agit pas, c'est très précisément, parce qu'il ne s'agit pas d'être dans le face-à-face avec la CGT. Il s'agit de négocier avec les organisations syndicales pour les salariés. Voilà, il faut être dans le dialogue avec les salariés.
Donc il y a une semaine jusqu'au 10 juin pour négocier et empêcher effectivement des troubles à l'ordre public.
C'est lundi que ça se passe.
Dans les entreprises.
C'est lundi à la SNCF, c'est lundi à la RATP, c'est lundi sur les intermittents du spectacle.
Donc vous comptez sur les patrons de la RATP et de la SNCF de lâcher du lest en interne pour que
lâcher du lest. Mais une négociation. Et pourquoi les syndicats ne lâcheraient pas du lest ?
Non mais attendez, c'est pas une insulte de lâcher du lest.
Donc je ne dis pas lâcher du lest, je dis une négociation qui aboutit.
Sur les salaires, par exemple, à la SNCF.
Et les intermittents aussi.
Donc Guillaume Pépi et la patronne de la RATP ont fort à faire. Michel Sapin qui, cette semaine, déclare qu'il faut rectifier l'article 2. Il a eu un petit... Petite absence, comment vous expliquez
Il est revenu dans la minute sur ce qu'il avait dit.
Oui, non, mais donc comment vous l'expliquez Ancien rien, ministre du Travail, il connaît bien les questions sociales.
Est-ce que vous avez trouvé Bruno Leroux relou comme Stéphane Le Foll ou pas?
Non, non. Mais c'est parce que Bruno Leroux est dans son rôle de patron du groupe.
Ouais.
Mais tout est surinterprété aujourd'hui, ce qui n'est pas anormal puisque nous sommes dans une crise sociale.
C'est quand même le porte-parole du gouvernement qui dit ça. C'est pas...
Non, mais je parle. Non, mais c'est un lapsus.
Oui. Bon.
Mais Bruno Leroux, qu'est-ce qu'il a sur la patate? Je vais vous le dire ce qu'il a sur la patate.
Il se fait engueuler par les députés socialistes qui lui disent.
Non,
on veut pas
c'est que. C'est que. Lui et Christophe Surugue. On fait dans tous les sens.
Le texte de la loi travail.
Voilà, on fait dans tous les sens des propositions à ce que l'on appelle communément les frondeurs, pour qu'il y ait une position commune. OK ? Bien, toutes les propositions ont été refusées au nom du retrait. Et aujourd'hui, attendez, laissez-moi terminer.
Ouais.
Et aujourd'hui, Christian Paul s'adresse au président de la République pour négocier. Donc on n'est plus dans le retrait. Donc se bouger, comme on dit dans le mouvement syndical et au Parti communiste, se bouger, il est intervenu après tout le débat, motion de censure, etc. etc. Est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire avant?
Ils ont proposé plein d'amendements, ils n'étaient pas forcément
pour le retrait. C'était une discussion dans le groupe.
Surugue lui-même propose de revoir le fameux article 2, puisqu'il dit on va faire un contrôle a priori.
Non, et pas il dit pas.
Et vous dites non, et Valls dit non.
Non. Il ne fait que reprendre ce qu'il a proposé pour démontrer qu'il avait fait des propositions, y compris, y compris a priori. Le contrôle a priori, ce qui était, d'un certain point de vue,
mais ça vous
remettre en cause.
Ça, c'est possible.
Non, je ne dis pas ça. J'ai dit, il a fait des propositions, il a été très loin avec les autres,
et
même ça, ils ne l'ont pas saisi.
Pourquoi pas? Parce que la CFDT, pour elle, c'est pas acceptable.
Mais pour une raison toute simple, c'est-à-dire que dans le débat que nous avons avec l'extrême minorité des parlementaires, dans ce débat-là, le problème n'est pas les propositions positives que nous pourrions faire ou que nous avons faites, c'est tout simplement le retrait.
Non mais moi je vous demande
là,
sur le
changé.
Fond, sur
ça
le
a
fond. Changé.
Donc
de
maintenant
cette,
on va aller un peu plus loin, donc discuter un peu sur
mais
cet
donc,
article 2.
Mais c'est pas les syndicats, ce sont les parlementaires. Donc à un moment où le débat sera réouvert après
on
le passage
début
au Sénat,
juillet, d'ici là,
au début juillet, je dis la chose suivante, je préviens tout le monde, on peut éclairer, mais on ne peut pas dénaturer le texte. Voilà, c'est
donc, la ligne de crête est extrêmement étroite. On essaiera peut-être de le traduire encore, mais on a d'autres sujets aussi avec vous. Jean-Christophe Cambadélis pour la deuxième demi-heure du Grand Jury. A tout de suite.
Suite du Grand Jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste, député de Paris. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux.
Avec Alexis Brézet du Figaro et Julien Arnaud de TF1 et LCI. Jean-Christophe Cambadélis, dans ce contexte où la gauche est en grande difficulté, ça vous ne pouvez pas le nier tout de même, Emmanuel Macron, ministre du gouvernement, ministre de l'économie, a lancé hier sa grande marche. Il est à sa tâche.
Écoutez, vous savez, je crois que nous sommes complémentaires.
Ah ben c'est nouveau, ça.
Je crois que... Oh, non, c'est pas nouveau. Moi, je cherche à rassembler la gauche et les socialistes...
Et lui cherche à diviser.
Pour permettre à la gauche socialiste de soutenir François Hollande. Et lui cherche à parler, comme il le dit, à ceux qui se sont éloignés ou n'ont pas pris position depuis longtemps pour soutenir François Hollande.
Il a plaidé mardi dans les Échos pour une modération salariale.
Mais ce n'est pas la position du gouvernement, c'est sa position.
Il est ministre de l'économie quand même.
Oui, mais c'est sa position.
Comment
pour
faire le tri parce qu'on s'y perd?
Il ouvre beaucoup de portes, il est vrai. Mais elle se ferme derrière lui.
C'est-à-dire, pourquoi elle se ferme derrière lui?
Je n'ai pas vu jusqu'à présent que ses déclarations soient suivies des faits du point de vue de la politique
parlementaire. Non, mais quand il confie aux Échos, à propos de la loi El Khomri, qu'il faudrait aller encore plus loin,
il
justement...
Il met pas un peu d'huile sur le feu, non?
Et que François Hollande, d'ailleurs,
mais je pense qu'il
le
voulait
relit,
aller. Je pense qu'il voulait aller plus loin. Je pense que la loi El Khomri, la loi Travail 1... portait en grande partie son sceau.
Sa marque.
Oui. Et après, il y a eu une négociation. Il n'a pas démissionné du gouvernement en disant « Horreur et damnation, cette nouvelle loi, je ne veux pas, ça peut, c'est pas moi. » Et donc, je ne veux pas m'entretenir. Donc, oui. Il a son avis, comme ça existe dans un gouvernement. Il le dit parfois, parfois trop souvent, et donc ça alimente évidemment la polémique. Mais
dire qu'il faut aller plus loin pour la CGT, c'est un chiffon rouge en ce moment, non?
Et c'est pas lui qui décide, ils le savent bien.
Il est quand même le ministre de l'économie, non?
Mais oui, mais donc c'est pas lui qui décide.
Le ministre de l'économie ne décide rien en France, sur l'économie.
Le problème, d'ailleurs, on en parlera peut-être, c'est le problème de nos institutions. C'est le Premier ministre qui fait les arbitrages sous l'égide du président de la République.
Il n'y a pas si longtemps, vous craignez...
Arnaud Montebourg, il était ministre de l'économie. Il était sur une ligne politique radicalement opposée
à celle du président.
Radicalement opposé. Il est resté 2 ans. Il a même accepté le CICE, le pacte de responsabilité, et j'en passe. Bon.
Pourtant, il faisait des déclarations.
Et bien, voilà, c'est comme ça.
C'est quand même invraisemblable ce que vous nous dites. Parce que des ministres de l'économie qui sont opposés à la position du gouvernement,
mais
qui
reste la loi la plus importante en matière économique. Vous savez, nous, c'est pas le clonage. Hein.
Ah oui, là,
on a des, hommes et des femmes qui ont des opinions.
Enfin, il faut un peu de cohérence.
Non, mais c'est un peu le cafouillage de temps en temps.
Ce que vous nous reprochez, c'est soit d'être dans la cacophonie.
Mais c'est un fait.
Mais non, nous sommes dans la polyphonie. C'est-à-dire que nous avons des hommes et des femmes qui sont complémentaires.
Mais on vous a connu quand même beaucoup plus critique à l'égard de... Qu'est-ce qu'il vous prend d'Emmanuel Macron.
Il n'y a pas si longtemps, vous craignez qu'il ne devienne Brutus, ayant le rôle
bien
de César.
On je, a lui disais, je lui dis toujours qu'il se rêve en Sully. Mais les médias le veulent le voir en Brutus. D'ailleurs, il n'y a pas...
Il se rêve surtout en candidat.
Ça, c'est la réécriture de... C'est une interview.
Je n'ai pas entendu une seule fois dire qu'il était candidat.
Vous pensez qu'il ne le sera pas et qu'il ne veut pas l'être?
Mais si, ce que je souhaite, le président de la République, qui est notre meilleure chance à gauche, est candidat à l'élection présidentielle, il ne le sera pas.
Ça, vous en êtes sûr?
Mais j'en suis sûr.
Vous avez vu l'épisode du Costa ou pas?
Il n'y aura que si François Hollande n'est pas candidat.
Si François Hollande n'est pas candidat, je crains qu'il ne soit pas le seul à être candidat.
Ouais.
Macron.
Macron. Et dernière chose sur Macron, donc tout ce qu'il fait là avec sa grande marche, son diagnostic, il va vous le donner en fait, c'est pour vous. C'est ce que vous espérez, parce que vous êtes complémentaire.
Mais bien sûr, il dit pas, regardez, les mots ont un sens. Je crois qu'il travaille avec quelques communicants, les mots ont un sens. Il ne dit pas, nous allons élaborer le nouveau programme de la gauche pour les années 2017, mais nous allons faire un diagnostic sur ce que pensent les Français.
Et des propositions.
Après, ils font des propositions.
Mais
il participe de ce qui est nécessaire, il ne dit pas qu'il se substitue.
Est-ce que vous l'avez vu donc face à sur l'épisode du costard, il était en déplacement, et puis il y a eu cet échange où il a dit à quelqu'un, vous m'impressionnez pas avec votre t-shirt.
Il n'y a pas de Mélenchon qui s'énerve devant les gens.
Ça a été très repris comme une incarnation peut-être.
C'est une faute politique.
De mépris ou de je ne sais quoi. Vous l'avez ressenti comme ça ou pas?
Vous savez, moi j'aime bien les hommes et les femmes politiques qui ont du tempérament et qui se laissent pas marcher sur les pieds. Alors après, la formulation est peut-être pas adaptée, mais il n'y en avait peut-être pas à portée de sa main à ce moment-là. Il n'a pas réagi dans l'humour.
On notera en tout cas votre bienveillance tout à fait nouvelle à l'égard d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est votre choix est de le... faire revenir dans
et
votre...
Tout de suite. Mais... Je suis contre Macron, c'est la scission. Je suis pour Macron, c'est pour l'étouffer. Mais non, laissez-le vivre, ce garçon.
Laissez-le faire en sorte qu'il nous prépare
dans, vis-à-vis d'une population à qui nous ne parlons pas ou nous ne parlons plus, qu'il développe les choses.
Voilà, c'est un ministre utile. À propos de polyphonie, on entend des socialistes dire pas haute voix, mais dans les couloirs. J'espère que François Hollande ne pourra pas se présenter. Les Français vont organiser son éviction par les sondages. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Mais je ne connais pas de socialiste qui dit ça.
Vous connaissez pas
vous savez, j'ai tous les dirigeants.
Nous, on en connaît.
Tous les lundis. Oui, d'accord, mais vous dites ça dans l'off. Mais tous les dirigeants, tous les lundis, au bureau national.
J'ai les
tous. Ils sont
pas.
Tous là. Ouais. Hein? Aucun ne dit ça.
Il y a déjà tous ceux qui ont envie d'être candidats. Ça prouve qu'ils n'ont pas tellement envie que François Hollande le soit.
Oui, mais ils ne pensent pas battre François Hollande, je pense. Dans une primaire.
Vous pensez ?
Moi, je ne pense pas que Marine Lindemann pense battre François Hollande dans une primaire.
Macron, par exemple.
Mais Macron, il n'est pas au bureau national du Parti Socialiste. Montebourg, non plus. Montebourg,
Hamon.
Hamon ne pense pas battre François Hollande dans une primaire. Je ne pense pas.
Donc, une primaire avec François Hollande, parlons-en. Elle est toujours au programme. Vous en parlez au Conseil national du 18 juin prochain. Vous êtes toujours favorable à une candidature unique au Parti Socialiste dans le cadre d'une primaire ?
D'abord, moi, je suis favorable à une primaire. Je suis
mais dans des conditions... Tout le monde n'en est pas convaincu. Ouais.
Mais d'accord, parce que quand on dit qu'on est pour une primaire, ça veut dire, messieurs, mesdames, écoutez, je suis pour une primaire, ça veut dire je suis contre une primaire. Quand même, c'est non, à la fin, j'imagine comment les Français arrivent à s'y retrouver. Donc, je suis pour une primaire, les journalistes, je suis contre une primaire, et donc, je veux que celle-ci puisse s'organiser avec toutes les forces de gauche. Je constate que Mélenchon est déjà parti, et que les Verts viennent de faire un tournant hostile au Parti Socialiste, et que le Parti Communiste, dans la motion qui a eu 51% pour le prochain congrès, n'est pas tout à fait sur une ligne d'unité. Donc j'essaye de faire en sorte qu'il y ait unité. Pourquoi ? Parce que s'il y avait une primaire, je pense, moi, je peux me tromper, que François Hollande l'emporterait et qu'il serait le candidat, d'un certain point de vue, unique de l'ensemble de la gauche.
S'il n'y avait pas de primaire, vous diriez,
J'ai mon plan B.
C'est une primaire interne ?
Non. La Belle Alliance. Attendez.
La Belle Alliance.
Il y a quand même des gens qui ont envie d'être candidat à la candidature. C'est dans les statuts du Parti Socialiste, la primaire.
Moi, je ne suis pas sur cette optique.
Oui, mais c'est dans les statuts. Il y a des gars qui sont en train de porter plainte en disant c'est dans nos statuts.
Et alors, qu'est-ce que je fais d'autre, là ? J'ai fait deux votes au Conseil national, organisé une commission interne au Parti Socialiste pour la préparer, fait participer les dirigeants du Parti Socialiste au collectif Notre Primaire, dit sur RTL, LCI, Le Figaro, que j'étais pour une primaire. Qu'est-ce que je fais d'autre ?
Vous nous dites en même temps, Jean-Christophe Cambadélis,
Pourquoi ? Non, mais c'est très intéressant. Pourquoi elle ne devrait pas avoir lieu ? Parce que je dis qu'il faudrait que ce soit François Hollande qui soit le candidat.
Et ça, c'est pas candidat, possible. C'est un peu contradictoire avec une primaire, s'il n'y a qu'un candidat.
Non, vous n'êtes pas au fait de nos discussions internes. Qu'est-ce que je dis à la minorité du Parti Socialiste ? Je dis, pour l'instant, vous êtes 5 candidats. Ça fait beaucoup.
À droite, ils sont
bien. Non, parce que si c'est une primaire de toute la gauche, nous avons des amis écologistes du Parti Communiste. Eux, ils auront un seul candidat. Et nous en aurions 6. Mais on est dans une situation où on s'affaiblit dans la compétition amicale. Mais on s'affaiblit. Donc, je leur dis, rassemblez-vous.
Franchement, derrière François Hollande.
Non. S'ils ne veulent pas, je leur dis, rassemblez-vous. Et choisissez Hamon, Montebourg, Marine Lindemann, Gérard Filoche ou Christian Paul. Allez, faites votre choix.
Ah donc vous serez prêt à une primaire où il n'y a pas qu'un seul candidat socialiste ?
Je vous ai dit, c'est le préalable. Après, on va discuter le 18. C'est le préalable.
Qu'est-ce que vous avez décidé le 18 précisément ?
On verra, c'est pas en fonction de ce que sera donné.
L'enjeu, c'est
ce qu'aura donné le congrès du Parti communiste et des écologistes. Moi, ma théorie, c'est qu'aujourd'hui, ils sont dans la préparation de leur congrès. Et donc, ils sont dans une certaine radicalité par rapport au Parti Socialiste. Mais après, ils vont faire les comptes. Et les comptes, ce n'est pas simplement la présidentielle, c'est aussi les élections législatives. Et si je ne vois pas une organisation politique qui a décidé de se suicider, il faudra bien discuter avec le Parti Socialiste. Sinon, nous allons organiser la défaite de la gauche à l'élection présidentielle, et derrière, le principal parti d'opposition du Parti Républicain, parce que je pense que Marine Le Pen ne gagnera pas la présidentielle,
ça sera
le Front National.
Hein,
et il n'y aura plus de communistes, et il n'y aura plus d'écologistes. Bravo, quelle manœuvre !
Il y a eu une motion de censure au moment du vote sur la loi travail. 22 députés socialistes s'étaient prononcés pour cette motion de censure. Première chose, est-ce qu'il y aura des sanctions contre eux ? Est-ce que vous le souhaitez ? Et ensuite, est-ce qu'il y aura vraisemblablement une nouvelle motion de censure au moment du retour du texte ? Et on dit que peut-être la gauche pourrait en présenter une qui serait votée par la droite. Est-ce que c'est un scénario que vous craignez ?
Alors, je ne le crains pas parce que je crois que tout le monde a une éthique de responsabilité. Et j'ai dit lundi, devant le Bureau national, que si on avait déposé, ou on dépose une motion de censure contre le gouvernement, votée ou pas, par toute ou partie de la droite, c'est la ligne rouge.
Ça veut dire quoi, la ligne rouge ?
On se sépare.
L'exclusion.
L'exclusion, c'est des termes juridiques qu'il faudra déployer dans un conseil national.
On
n'est plus dans la majorité. Voilà, c'est terminé. Nos histoires communes s'arrêtent. C'est un choix. Moi, je ne le souhaite pas. On m'en critique assez de tout faire, jour après jour, pour que tous les socialistes restent ensemble. Mais à un moment donné, il y a une ligne rouge. Je le dis, je le répète, je l'ai dit devant le Bureau national. D'ailleurs, tout le monde a compris.
Sanctions ou pas sanctions contre ceux qui voulaient signer la motion de censure ?
Ils n'ont pas signé.
Ils ont mis leur signature.
Et ils n'ont pas signé, elle n'a pas été déposée.
Donc c'est pas grave là.
L'intention n'est pas l'action.
Ça suffit pas, d'accord. Il n'y a pas de péché d'intention.
Oui, d'accord, ça n'existe pas.
Donc
Non. J'ai demandé à la haute autorité éthique de nous éclairer sur ce sujet. Parce qu'à un moment donné, il faut se dire, est-ce qu'on est ensemble ou pas ?
Mais pourquoi c'est de l'éthique ? C'est de la politique. Ils sont pas d'accord, c'est de la politique. C'est-à-dire le comité d'éthique ?
Parce qu'il y a aussi une éthique de responsabilité à avoir entre nous. On peut avoir des désaccords, mais on sait où il faut s'arrêter. Si on ne sait pas où il faut s'arrêter, eh bien, ce n'est plus la polyphonie, c'est la cacophonie, et à la fin, c'est la scission.
Donc, s'ils avaient eu deux voix de plus, ils auraient franchi la ligne rouge, alors qu'ils ne l'ont pas franchi.
Donc, après,
c'est quand même bizarre.
Il n'y aura pas de sanctions. On comprend qu'il n'y aura pas de sanctions.
En droit, la tentative de l'action.
Il peut y avoir des recommandations, ce que je souhaite, de la haute autorité éthique, qui nous fixe un cadre pour savoir... Parce que ça va perdurer plus tard.
Dernier avertissement avant sanction, si jamais vous ne recommencez pas.
Et on verra. Pour l'instant, elle n'a pas rendu de...
On comprend que vous ne souhaitez pas absolument des sanctions contre eux.
À
cette étape-là, à ce stade-là, évidemment. Parlons de ces... J'en parlais dans l'introduction, de ces tirs contre un local PS dans l'Isère. Vous avez dit, après, faute de réaction d'ailleurs des partenaires...
Et
une trentaine d'agressions contre des locaux. Vous avez dit qu'il y avait un climat des années 30. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ?
C'est la première fois... C'est peut-être que vous allez me contredire... Mais c'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale que je vois une action concomitante contre une trentaine de permanences de socialistes, une trentaine de locaux de fédération et 24 locaux de section. Ça, c'est pas décidé tout seul, ça. Les gens sont pas levés un matin en disant « on va tous faire la même chose ».
Qui est derrière ça alors ?
Je n'en sais rien.
Ah bah...
Ben, j'en sais rien, sinon je vous le dirais, là.
Vous devez avoir une idée, quand
vous connaissez. Donc je vous le dirais, je n'en sais rien.
C'est quoi, c'est la CGT?
Je n'en sais rien.
C'est Mélenchon.
Mais
en tout cas, ce que vous savez, ce dont vous vous doutez, c'est qu'il y a une concertation.
Évidemment. Évidemment.
C'est pas Il y a des gens
qui s'y mêlent, parce que des fois, on détruit les photos de Allende dans les permanences ou celles de François Mitterrand et on tague. Des slogans très identitaires. Bon, donc à ce moment-là, ça vient pas de la gauche, je pense. Bon, puis il y a d'autres fois, on tague des choses contre la loi travail. Donc je ne sais pas qui est derrière ça, mais franchement, c'est un climat volontairement construit de violence vis-à-vis d'une formation qui est reconnue et qui a ses représentants. Au Parlement.
Qu'est-ce que vous dites à une fraction de l'ultra-gauche qui pourrait être peut-être...
Je n'ai rien à leur dire. Qu'aujourd'hui, ils ont décidé non pas d'amender, pour reprendre leur vocabulaire. Il n'y a pas d'alternative dans la République. Donc ils sont hors la République.
Ils ne
sont pas républicains.
Et vous avez porté plainte contre ces différentes actions.
Et où en est l'enquête, vous savez, non ? Sur Grenoble, notamment ?
Je n'en sais rien. Enfin, on ne tire pas au fusil d'assaut contre une permanence comme ça.
Vous avez aussi regretté que les autres partis ne soient pas davantage réactifs. Ça vous a paru aussi un manquement grave à ce réflexe républicain ? Il n'a pas été républicain.
Non. Il faut avoir l'honnêteté de dire que le Parti radical a réagi. Le Parti communiste, par la voix de Pierre Laurent, a réagi. Et Nicolas Sarkozy a réagi. Le reste, walou, on n'a pas entendu. Rien. Et franchement, le manque de réflexes démocratiques dans ce moment-là me navre. C'est un des éléments de l'affaissement de notre démocratie.
Par exemple, Jean-Luc Mélenchon ne vous a pas appelé. Pour dire.
C'est un peu comme vous quand vous ne condamnez pas l'interdiction de parution des journaux, par exemple.
Il pourrait moins le regretter.
C'est un peu la même histoire.
Et qu'est-ce que c'est ? Par exemple, Karine Berger qui a dit, pour moi, c'est de la haine contre les socialistes.
Mais bien sûr. C'est de la haine. Mais ce n'est pas la haine contre nous seulement, puisque les permanences des républicains.
Contre les socialistes après 4 ans de gouvernement Hollande qui devait apaiser la France.
Mais vous ne pensez pas que dans notre société, il y a beaucoup de violence? Vous n'avez pas l'impression?
Il y a une violence, mais elle est tournée contre vous.
Mais elle sera tournée contre tous les pouvoirs, pour une raison toute simple. C'est que nous avons combiné.
C'est être agressé, alors.
Et non, c'est parce que nous sommes dans un moment particulier, qui est un moment de transition, tant sur le plan économique que sur le plan de la révolution de l'immatériel, que sur le plan de l'Europe, que sur le plan de la géopolitique, que sur le plan du terrorisme. Bref, il y a des crises conjointes qui nous assaillent, qui assaillent tous les Français, qui les inquiètent. Et comme il y a une crise de la représentativité des formations politiques qui est due à la Ve République, qui est à bout de souffle, c'est pour ça que nous avons déposé un premier texte de réflexion sur nos institutions, eh bien, les formes d'expression ne sont plus dans les partis. Elles sont hors parti.
C'est un sacré enjeu pour vous.
Eh bien oui, c'est jamais remarqué.
Et, Thierry Mandon qui disait il y a quelques jours, et d'ailleurs sur RTL et au grand jury, qu'il fallait modifier les institutions. On ne peut plus gouverner comme ça. Le chantier des institutions, ce serait quoi la première mesure d'ailleurs pour essayer de faire en sorte que ça se passe mieux?
On en a prévu 50. Donc je ne vais pas vous en dire une. Mais la philosophie, elle est assez simple. C'est que la Ve République a été constituée pour rationaliser le régime des partis. Si elle veut perdurer, il faut qu'elle rationalise le régime présidentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut plus fonctionner comme cela.
On supprime le Premier ministre ?
C'est l'inverse, ça serait renforcer ça. On ne peut plus fonctionner comme cela, avec une concentration des pouvoirs, avec un mode de fonctionnement à l'époque du tweet, d'Internet, de la communication horizontale. Okay. On ne peut plus fonctionner
régime plus
avec
parlementaire.
Président plus de parlementaire. Pouvoir, plus de parlementaire. Plus oui, de oui, ce que l'on dit dans notre texte. J'étais
contrôle.
Étonné que le Figaro n'en parle pas. Mais il y a trop de centralité aujourd'hui, trop de rigidité, trop de lenteur. Nos institutions ne sont pas adaptées. Souvenez-vous du discours du général de Gaulle, dans le discours de Bayeux, ici et maintenant, il faut que nos institutions changent pour pouvoir permettre de reconstruire la France. Eh bien, ici et maintenant, il faut changer nos institutions parce que c'est une question de démocratie.
Juste
sinon, on aura tout le temps, un abstentionnisme
juste
de masse.
Juste une question avant d'accueillir Benoît Guelleret. Une réforme constitutionnelle, elle se fait à quel moment d'un quinquennat?
Moi, je pense que ce débat sera l'un des débats majeurs de la présidentielle.
Oui, et alors
c'est
on est élu et ensuite on fait quand la
réforme ? Le chemin d'une démocratie plus fluide, où les citoyens aient plus de capacité à peser sur les événements.
C'est difficile pour un président, on l'a vu avec Nicolas Sarkozy et François Hollande, de réformer les institutions dans le cadre d'un quinquennat.
Oui, mais si le débat a lieu dans la présidentielle, tous les candidats nous diront ce qu'ils pensent de la réforme institutionnelle, et celui qui sera élu aura peut-être une légitimité pour enfin faire bouger nos institutions.
Dans la foulée. Benoît Guelleret nous rejoint, il vous a écouté et veillé sur les réseaux sociaux. Et alors ?
Bien alors, on vous a trouvé très en forme. Renaud, en tout cas, a bien aimé vos petites phrases, particulièrement la nuance sur la cacophonie et la polyphonie au PS. En revanche, Judith nous dit qu'on n'a pas trop compris votre position personnelle sur la loi travail. Si c'était l'objectif de ne pas vous donner votre position personnelle, c'est une réussite, dit-elle.
Donc elle a bien compris.
Beaucoup d'inquiétudes, en revanche, sur l'euro. Vous n'avez pas forcément rassuré. Il vient nous faire croire qu'il va y avoir de la solidarité, de l'écoute, la fin de la violence. Jérémy vous demande si vous n'êtes pas une Miss France. Et même Studi vient à souhaiter que les grévistes vous donnent tort et perturbent cet euro. Qu'attendez-vous pour supprimer les fan zones ou, nous dit Matt, pour retrait inéluctable de cette loi pour être sûr que l'euro ne soit pas impacté, puisque, dit-il, qui est minoritaire aujourd'hui, les syndicats ou M. Valls qui a perdu les primaires et qui n'a pas de majorité?
Bon, ça fait beaucoup de choses.
J'ai plus beaucoup de temps, alors je vous ai fait un pack euro. Voilà. Inquiétude sur l'euro.
je crois qu'il n'y a pas à avoir d'inquiétude. Il peut toujours y avoir des incidents, mais qui ne sont pas dus au conflit social, qui seront extérieurs.
Mais les fans zones, il faut les garder.
Manuel Valls va parler sur cette question.
Parce que les policiers sont inquiets, ils ne sont pas
sûrs.
Oui,
tout le monde est inquiet. Donc moi, je ne veux pas donner mon grain de sel plus que d'autres sur cette question-là. C'est des problèmes.
Vous avez l'air d'avoir
des sécurité, infos. De sécurité. Non, je n'ai pas d'infos plus que cela.
Mais Manuel Valls en parle demain.
Oui, je pense qu'il en parle. Enfin, dans les jours qui viennent, il va faire une communication là-dessus. Oui. Mais je ne vois pas, je ne souhaite pas, je ne vois pas et je ne comprendrai pas que la CGT perturbe l'euro.
Ça, vous l'aviez dit tout à l'heure. Bah, vous le répétez à nos internautes. Voilà.
Sur la sécurité des fan zones, c'est ça le vrai sujet.
Oui, bah c'est un vrai sujet, mais il y a peut-être des manières de faire en sorte que cette sécurité soit assurée. Bon.
Autre inquiétude, cette fois-ci, pour le Parti Socialiste, n'êtes-vous pas un peu trop naïf avec Macron? C'est un jeune avec Macron qui disait hier, nous rapporte Renaud Pilat de MyTF1 News, nous sommes déjà 6000, c'est deux fois plus que le MJS et encore, je suis sympa, Jérémy dit attention, en cette période de pénurie, hein, c'est pas de l'essence que Macron veut siphonner, mais tous les militants du PS, est-ce que vous n'avez pas peur de perdre au moins la jeunesse du parti?
Bon, ils sont 6000, c'est ça? Nous sommes 115 000. Je ne vois pas beaucoup de parlementaires rejoindre Macron, mais je ne vois pas les choses comme ça. J'ai dit que nous devons, nous pouvons et nous serons complémentaires.
Allez, un dernier pour la route.
Plus à gauche, on vous demande si vous flippez qu'Hollande soit derrière Mélenchon au premier tour en 2017.
Non, je ne crois pas. Je pense que Mélenchon a capté la radicalité, ce qui ennuie beaucoup tous les autres candidats alternatifs au Parti Socialiste. Il l'a fait. Avec violence et avec talent, il faut le reconnaître, mais il a un plafond de verre, il est 12%, malgré ce qu'il pense.
Vous ne sentez pas marginalisé, dit...
qui montre que c'est touche à touche.
Vous ne sentez pas marginalisé, dit Hugues.
Pour l'instant, on n'est pas en campagne, on n'est pas en situation de campagne.
Vous ne sentez pas marginalisé comme les autres partis socialistes européens, en Pologne, en Espagne, en Grèce ou ailleurs, débordés à la fois sur votre gauche et votre droite?
Non, je ne crois pas. D'ailleurs, nous l'avons vu lors des élections départementales, des élections régionales, nous étions à 23-24% et je pense que nous le reproduirons aisément.
Très bien, merci beaucoup Jean-Christophe Cambadélis d'avoir été notre invité aujourd'hui sur ce plateau du grand jury RTL Le Figaro LCI, à retrouver en intégralité 18h30 sur LCI, en replay sur RTL. Bon dimanche à tous, bonne journée. Au revoir Alexis Brezet et Julien Arnaud, merci.
Au revoir.
Et Benoît Galeret.
Vous écoutez RTL.